franceinter.com 3D. 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 Le journal de Stéphane Paoli. France Inter.
Au programme de 3D aujourd'hui, l'Islande. L'Islande et la souveraineté de son peuple. Même, vous verrez s'il faut un peu relativiser la portée ou la puissance de cette souveraineté. Néanmoins, il se passe en ce moment en Islande des choses absolument passionnantes, avec par exemple une assemblée constituante composée de 25 citoyens. C'était ouvert à tous les citoyens islandais. 25 ont été retenus. Et ces 25-là sont en train de réfléchir, de travailler, de plancher sur une nouvelle constitution, laquelle sera soumise à référendum en 2012. Alors au moment où nous interrogeons, nous, Français, sur notre participation au scrutin, il m'a semblé que ce qui se passait en Islande pouvait être un miroir intéressant. Alors, la première partie de 3D est donc consacrée à l'Islande, à sa souveraineté populaire, à son assemblée constituante. Permettez-moi de vous présenter celles et ceux qui vont y participer. Laurence Sialom, bonjour madame, et merci d'être là. Vous êtes professeur d'économie à l'Université Paris-Ouest Nanterre-la-Défense, membre du laboratoire Economics au sein de cette même université et experte auprès d'un think tank qui est le think tank Terra Nova.
Tout à fait.
À vos côtés, Régis Boyer. Bonjour monsieur Boyer, merci Bonjour. D'être là. Vous êtes professeur émérite de langue, littérature et civilisation scandinave à l'Université Paris 4 Sorbonne. Vous êtes le fondateur de l'Institut d'études scandinaves à Paris 4 et vous avez récemment traduit et présenté Amour de l'Islande, poème de Sten... Alors pardonnez-moi d'avance pour la prononciation parce que là on rentre dans des choses difficiles hein, s'agissant de l'islandais, de Steinum Sigurdardottir.
Quelque chose comme ça.
Merci. Merci de votre compréhension et de votre bienveillance. Arnaud Guérin. Bonjour, monsieur Guérin. Merci d'être là, vous aussi. Vous êtes géologue spécialisé en volcanologie. Vous êtes photographe, auteur d'un livre absolument magnifique qui est paru aux éditions du Chêne, qui a tout simplement pour titre « L'Islande ». C'est dans la collection Grand Voyageur. C'est splendide. Et on commencera par vous dans un instant parce que c'est vrai que cette terre-là dit beaucoup de choses du comportement de celles et ceux qui y vivent. Et enfin, Cyril Coulet. Bonjour, Cyril Coulet.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous êtes chercheur invité de l'Institut suédois de relations internationales, spécialiste des pays nordiques. On peut lire une de vos contributions dans la revue Nordique, avec un S à Nordique, qui est publiée aux éditions Choiseul, qui m'a beaucoup servi pour préparer l'entretien sur les questions politiques islandaises telles qu'on les abordera dans un instant. Mais donc, Cyril Coulet, petite photo pour commencer de l'Islande. Avant d'entendre le photographe, donnons la parole au géologue que vous êtes. Est-il vrai que l'Islande est l'une des régions de la planète Terre où la croûte terrestre est la plus fine?
Oui, c'est exactement ça, puisque en Islande, donc cette petite île perdue au milieu de l'Atlantique Nord, c'est une région géologique, c'est là où s'ouvre l'océan Atlantique, au rythme de 2 à 3 centimètres par an.
C'est-à-dire que l'Islande grandit de 2 centimètres par an à peu près.
Hein. En moyenne, hein. Donc ça se fait pas, on gère pas des moyennes sur les sciences de la Terre, mais en tout cas c'est comme ça que ça se passe. Et donc ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle est située sur la plus grande chaîne de volcans de la planète, qui s'appelle la dorsale, donc médio-atlantique pour cette partie-là, qui fait plus de 60 000 kilomètres de long. C'est là qu'on a l'activité volcanique la plus intense de la planète, sauf que d'habitude c'est à 3 000 mètres de profondeur, il y a la concomitance d'un autre phénomène qui est un point chaud qui va apporter plus de magma qui a généré une île. Donc cette île qui est tout à fait singulière, qui est née pour les parties émergées il y a un petit peu plus de 20 millions d'années, un peu plus longtemps en dessous, qui est constituée à 99,9%. C'est une coquetterie des Islandais. Il y a 0,1% de terrain sédimentaire. C'est l'érosion qui joue son rôle. Mais en tout cas, c'est uniquement volcanique et ce ne sont des volcans. Enfin, les volcans sont répartis réellement partout à l'échelle du territoire.
Alors, les cinéphiles se souviennent tous sûrement d'un film, l'un des plus beaux de l'histoire du cinéma, qui est Stromboli, de Rossellini, où on comprend, en voyant le film de Rossellini, que si on vit au pied du Stromboli, on ne peut pas être un individu tout à fait normal. On a des réactions et des comportements qui sont liés au lieu où on habite. En est-il de même des Islandais? Marchez, le géologue que vous êtes, quand vous marchez sur cette si fine croûte terrestre sous laquelle se trouve le magma, est-ce que vous êtes un autre homme?
Ah bah, de toute façon, l'Islande, il y a une énergie, d'ailleurs le slogan de Reykjavik, c'est pure énergie, enfin énergie pure en français. L'Islande est une terre qui éructe, qui souffle, qui vide partout. En Islande, le tellurique, le volcanique et le climatique s'unissent pour rendre la vie dure aux gens qui ont choisi d'y vivre.
Et donc les caractères sont eux-mêmes une expression de quoi, de cette réalité géologique, de ce magma sous-jacent.
Ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a une sorte de, j'allais dire, ben, on sait que ça va se passer. Donc, comme si vous voyez les Napolitains ou si vous vivez avec les gens à Stromboli, ben, le voisin, et on parle toujours de lui, en l'occurrence à Stromboli, c'est Idou. Donc, c'est la personne qui vit à côté, qui respire à côté. Elle peut être en colère quelques matins. On s'en va un petit peu et puis on va revenir. Là, pour les Islandais, avec l'éruption de l'année dernière qui a défrayé la chronique de Eyjafjallajökull, le glacier de la côte des îles, eh bien, c'était un petit peu ça. C'est-à-dire que les paysans ont vu ces cendres tomber au pied du volcan et puis ils ont été évacués par la protection civile et puis quelques jours après, ils sont revenus voir. Ils ont enlevé les cendres du toit de leur maison et ils ont surtout regardé si l'herbe allait repousser. Et en l'occurrence, là, la surprise a été heureuse. Puisque sur cette bande littorale, hein, il faut bien expliquer aux gens que l'Islande, c'est une bande littorale avec du monde, hein, jusqu'à à peu près 200-300.
C'est 300 000 personnes, l'Islande. C'est une, 340 000 personnes. Ça fait une ville française moyenne, quoi, de la taille de Metz, en gros. Hein, puisqu'on était à Metz, elle tenait cette semaine.
Avec 200 000 personnes à Reykjavik, hein, pas beaucoup. Donc, au centre, c'est totalement vide. Donc, en fonction des vents, en particulier sur les éruptions volcaniques, les retombées vont pouvoir toucher des zones qui sont totalement inhabitées ou des zones habitées. Et là, pour les paysans, l'éruption de l'Eyjafjallajökull, qui était une petite éruption volcanique, vraiment quelque chose de pas.
Moi, je vais l'appeler le volcan pour gagner du temps, si ça ne vous pas. Parce que...
Eh bien, trois mois après, au mois de juin, les prairies étaient vertes et ça avait amené le bienfait du volcan. Alors, par contre. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au niveau volcanique, pour nous géologues, ce qui nous intéresse, c'est qu'en Islande, il y a quelque chose d'extrêmement particulier par rapport à Stromboli ou à d'autres volcans de la planète, c'est qu'on a une interaction entre l'eau et la glace. Donc le feu et la glace, donc ce qui va générer des phénomènes volcaniques très particuliers, des volcans très particuliers. Donc là, il y a véritablement un caractère islandais spécifique. Et les problèmes posés à notre trafic aérien mondial par ces cendres volcaniques étaient dus simplement à cette interaction entre l'eau et le magma, ce qui se comprend tout à fait, puisque le magma remonte dans de l'eau froide ou dans de la glace. Et donc, l'eau va passer immédiatement sous forme de vapeur, une augmentation de volume de plus de fois 1000. Et donc, il va y avoir une pulvérisation de ce magma qui va partir sous forme de petites particules extrêmement fines qui sont constituées essentiellement de silice. Cette silice, elle va pouvoir partir dans l'atmosphère.
Quelquefois se mettre dans les réacteurs d'avion, ce qui a fait peur à tout le monde.
Voilà, et on connaît très bien la conséquence, puisque le point de fusion de la silice est moins important, enfin la température est plus faible que la température qui règne à l'intérieur d'un réacteur d'avion. Donc on voit tout de suite la problématique.
Alors vous dites le feu et la glace, ça c'est une. Vous me tendez la main pour qu'on évoque aussi le caractère, parce que c'est ce caractère des Islandais si particulier qui va expliquer ce dont nous parlerons dans un instant, leur réaction à la crise économique et les conséquences politiques de cette réaction à la crise économique. Le feu et la glace, ce sont quoi, des Irlandais, des ermites irlandais qui arrivent en Islande au début, la première colonisation humaine.
Oui, moi je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'on dise que les conditions.
C'est Monsieur Royer qui nous parle.
Géologique soit. La raison de l'étonnante résistance de ce peuple, mais je tiens à détruire une erreur. L'Islande n'est pas un pays scandinave stricto sensu. Mmh. Les gens qui se sont installés en Islande à partir de 874 jusqu'à 930 étaient un mixte de Celtes et de Scandinaves, en général des Norvégiens. C'est-à-dire, c'est pas un vrai pays scandinave qu'il faut jauger à l'échelle de vos opinions sur la Suède ou le Danemark ou la Norvège. C'est vraiment une population à part. Alors, ce mixte-là doit avoir joué un rôle étonnant dans leur type de colonisation, dans leur type de gouvernement et dans leur comportement aujourd'hui.
Mais vous diriez que c'est alors celte et scandinave, c'est le feu et la glace, le feu et le feu, la glace et la glace. Comment qu'est-ce que ça donne en termes de caractère et de comportement?
Je ne sais pas vraiment. D'ailleurs, la Scandinavie n'est pas tellement sous la glace. Vous savez, il ne faut pas exagérer, sauf si vous montez très haut en Norvège ou en Suède, la glace, il n'y en a pas. Et si vous croyez qu'il y a de la glace au Danemark, vous vous trompez beaucoup.
Hein. Oui. En tout cas, pour les gens qui vivent là-bas, en tout cas les amis moi, que j'ai en Islande et des gens qui sont français, qui vivent là-bas depuis longtemps, ils expliquent que ce mélange celte-scandinave d'une manière assez assez empirique hein, sur du vécu, ça donne ce il y a un parallèle qui est assez intéressant en tout cas qu'ils font entre le feu et la glace.
C'est ça, oui, ouais, on peut dire ça.
Dans le c'est quelque chose qui ne se mélange pas, c'est comme l'eau et l'huile hein. Et donc il y a des moments ça apparaît dans la façon de vivre des gens sur ce côté extrêmement libre qu'ils ont, très très rigide pendant une partie de la semaine et le vendredi soir et le samedi soir. Un côté vraiment explosif qui fait la réalité aussi des nuits de Reykjavik.
Bien sûr.
Je veux absolument insister sur ce que dit mon voisin parce que deux traditions qui se mêlent dans une île. Vous avez l'exemple de la Crète, vous avez l'exemple de la Sicile, vous avez l'exemple de la Sardaigne, vous avez l'exemple de la Corse. Ça donne toujours des résultats extraordinaires. Et l'Islande est un pays extraordinaire quant à son histoire, sa population, etc. À telle enseigne que les spécialistes qui ne savent pas donner d'explications parlent de miracle islandais, n'est-ce pas?
Mais dès le début, il se passe des choses absolument extraordinaires. Oui. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur le premier vote à main levée quand il s'est agi de renoncer aux idoles pour passer à la chrétienté. C'est une
Alors,
histoire incroyable.
Vous trouvez ça, hein? Écoutez, nous sommes très très bien renseignés, vraiment très bien, puisque ce sont des écrivains par nature sur les origines de l'Islande. Il y a une série d'ouvrages qui s'appelle Landnámabók, le livre de colonisation. Il y a des codes de loi qui remontent à Xe siècle, Grágar, ça s'appelle Jónsbók, ça s'appelle. Et puis il y a les sagas, bien entendu. Alors, le christianisme n'a pas été abandonné. Je vais dire une chose un peu cruelle, tant pis. Le paganisme n'a pas été abandonné par vote à main levée. C'était des commerçants, les Scandinaves, les Vikings. Voilà le mot magique qui est lâché. Étaient premièrement des commerçants. Les commerçants qui étaient les Islandais ont compris qu'ils avaient intérêt à abandonner cette forme de paganisme que nous connaissons mal d'ailleurs, que les gens ont élaboré par la suite, pour devenir chrétiens, parce que ça leur permettait de commercer avec l'Occident. Il n'y a pas eu de vote à main levée. Simplement, il y a eu un individu plus sage que les autres qui a fait remarquer que il n'y a aucune raison de continuer à adorer les dieux, puisque si vous voulez commercer, il faut pratiquer la religion du blanc Christ.
Alors, vous voyez, c'est intéressant ce que vous
dites. C'est un mythe, ça.
Mais c'est un mythe, mais on ne prête qu'aux riches. Parce que c'est pas indifférent qu'on dise il y a eu vote à main levée pour renoncer au paganisme et qu'on ait jeté ensuite les idoles dans une chute d'eau qu'on appellerait la chute des dieux.
C'est encore une autre tradition qui sort d'un autre texte. Il faut vraiment réviser la question.
Bon, ben heureusement, on va essayer de faire ça ensemble. Mais vous voyez qu'il y a de quoi faire.
Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il faut remonter juste un tout petit peu avant. C'est qu'à l'échelle de la planète, c'est une île extrêmement singulière parce qu'il n'y avait personne avant. Et c'est-à-dire que quand ces premiers colons qui arrivent, donc qui sont scandinaves, celtes, ils arrivent sur une terre libre. Il n'y a pas de peuple autochtone.
Non.
Et donc c'est ce qui est très différent. Si vous allez 270 km à l'ouest, vous arrivez sur le Groenland, où là,
il y a les Inuits.
Donc il y a une population autochtone. Et la colonisation n'a pas pu se faire pour d'autres raisons également, mais c'est un univers qui est totalement différent. Là, c'est un univers où les gens sont libres et indépendants quand ils arrivent sur ce territoire. Et ils s'organisent par eux-mêmes.
Et quand même avec un sacré caractère, je retiens la formule l'eau et le feu, et on oublie donc le vote à main levée. Mais on va y revenir dans un instant.
Tient.
il m'a séduit quand même, j'ai trouvé que c'était pas mal. On va venir sur la crise économique avec vous, Laurent Cialom, parce que l'autre chose qui est tout à fait... Alors, faut-il rappeler que vous êtes donc professeur d'économie à l'Université Paris-Ouest Nanterre La Défense, et que vous travaillez aussi dans le think tank Terra Nova. Il y a là aussi une singularité islandaise, c'est que ça a été, en tout cas entre 2003 et 2007 à peu près, probablement la plus forte croissance de tous les pays développés, l'Islande. C'est petit territoire et extraordinaire activité économique.
Tout à fait, une espèce d'extraversion, d'hypertrophie, mais qui était complètement tirée par la finance. Donc en fait, l'histoire commence en gros en 94, au moment où l'Islande adhère à l'espace économique européen.
Pas membre de l'Union, mais
voilà,
membre de l'espace économique européen.
Et ça, c'est très important dans la sortie de crise, c'est-à-dire n'est pas membre de l'euro, ce qui va permettre une dépréciation très forte de la couronne, et donc une modalité de sortie de crise qui est différente de celle, par exemple, de l'Irlande ou de l'Espagne ou l'Irlande. En 94, l'Islande adhère à l'espace économique européen, ce qui lui donne accès, en fait, à toutes les régulations européennes et donc à toutes les déficiences des régulations européennes. Et notamment, ça donne accès à ses banques, à ce qu'on appelle le passeport unique. C'est-à-dire, dès lors que vous avez une licence qui est acquise dans votre pays d'origine, vous pouvez aller étendre vos activités bancaires à travers l'ensemble de l'espace économique européen. Et les banques islandaises, qui vont être privatisées sur cette période-là des années 90, dans des conditions qui ont été quand même beaucoup discutées, ces banques vont se lancer à corps perdu, en fait, dans une espèce d'expansion et d'extraversion qui va donner effectivement le résultat que, à la veille de la crise en 2007, au moment où la crise des subprimes naît, les actifs de l'ensemble de ces banques islandaises représentent environ 10%, 10 fois le PIB islandais.
Oui, j'ai
ce
lu.
Ce qui est incroyable.
J'ai vu des chiffres ahurissants. Alors, j'espère que ce n'est pas la même chose que pour le vote à Malvé, parce que je me commence à me méfier, moi, avec les Islandais. Mais j'ai lu 960% du PIB national.
Tout à fait.
C'est dément.
Ça. Non, mais c'est dément. Et ce qui veut dire notamment que les Islandais ont fait le choix de ne pas sauver leur banque, mais ils ne pouvaient pas, de toute manière, sauver leur banque. Et ce qu'ils ont fait, en fait, ce qu'ils ont choisi de faire, c'est de laisser les créanciers étrangers assumer l'immense part de cette dette.
Alors on va voir comment on va rentrer dans les réponses islandaises qui sont très très originales. Mais pour expliquer peut-être l'incroyable explosion de cette bulle immobilière en Islande, il faut s'arrêter aussi sur le fait que c'est une population jeune. La moyenne d'âge, l'âge médian, c'est quoi, 37 ans à peu près?
Oui, c'est une population très jeune. Oui, alors l'âge médian, ça je ne pourrais pas vous dire.
Mais bon, je sais que c'est une population jeune. Autour de 37 ans en effet. Et donc là, beaucoup d'entre eux ont voulu, grâce aux prêts bancaires, accéder à la propriété.
Tout
et c'est là
fait.
Que la bulle a commencé à se faire.
Tout à fait. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que les banques islandaises, c'est une espèce de cas d'école. C'est l'archétype de toutes les pathologies qu'on a connues dans les systèmes financiers dans la période pré-crise subprime. C'est-à-dire que les banques se sont mises à se financer massivement sur les marchés. Et un financement à très court terme. Elles ont, sur la base de ces financements obtenus et de ce gonflement très très rapide de leur bilan, elles ont octroyé des crédits dans des conditions, assez laxistes, relativement laxistes. Ces crédits ont alimenté des bulles sur des prix d'actifs, sur les prix immobiliers. Et donc effectivement, c'est ce qu'on observe dans toutes les périodes d'euphorie financière. C'est dans ces périodes où tout semble aller bien, où il y a eu des return on equity, donc des retours sur investissement d'une certaine manière. Parfois, certaines années, c'est de 50%, ce qui est des chiffres aberrants quand faut comparer ça aux chiffres de la croissance.
Non, mais on est en plein délire. Malheureusement, on l'a mesuré partout ailleurs.
Exactement.
Les hypothèques, en un an, les hypothèques qui augmentent de près de 340%.
Tout à fait.
Ils
ont poussé le modèle qu'on a observé avec la faillite de Northern Rock, qu'on a observé en Irlande, etc., jusqu'au bout du bout, disons.
Alors, qui va expliquer aussi les réactions, c'est qu'on assiste aussi à un endettement des ménages qui représente 103% du produit intérieur brut du pays. Intenable.
Tout à fait. Ça, c'est également une des caractéristiques qu'on observe dans la plupart des crises, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'augmentation du levier, c'est-à-dire de l'endettement, et du système bancaire et des ménages. Alors, selon les crises, des fois c'est un endettement d'État, des fois c'est un endettement privé, etc. En l'occurrence, là, c'est effectivement un endettement des ménages.
Et on n'a pas eu besoin d'attendre 2008 pour commencer à avoir peur de la crise, parce qu'il faut expliquer aussi que tous ces engagements bancaires sont en devise, et qu'en 2005, on commence à s'inquiéter du fait de la croissance islandaise qui ne sera peut-être pas aussi élevée qu'on l'imaginait. Et donc, beaucoup se demandent si les banques islandaises vont pouvoir rembourser.
Tout à fait, parce qu'en fait, le problème, effectivement, c'est que l'endettement est en devise, ce qui veut dire, en cas de décrochement de la couronne, de dépréciation de la couronne, automatiquement, une augmentation de la valorisation de la dette considérable. C'est-à-dire un poids de la dette simplement lié à un effet de valorisation excessivement fort. Donc effectivement, dès 2006, on a les premiers signes. Et c'est d'ailleurs incroyable, c'est qu'à ce moment-là que notamment une de ces trois grandes banques islandaises qui détient 85% du marché bancaire islandais décide, pour accroître sa base de financement, de se lancer à corps perdu dans la banque en ligne, notamment à destination du Royaume-Uni et des Pays-Bas. C'est l'épisode iSave. Et donc, c'est en fait une succursale. Et ça, c'est très important, ce soit c'est sous forme de succursale et pas de filiale. Parce que, et c'est ce qui va expliquer que l'État islandais est redevable d'une partie de la dette pour rembourser les déposants.
Alors, on va s'arrêter là un instant, Madame Selom, parce que pour les réponses et pour la réaction du peuple, on va faire une petite boucle, une petite digression en passant par notre ami Jean Pierrot. Bonjour Jean Pierrot.
Bonjour.
On va revenir sur les spécificités géographiques, géologiques, avec un aquarelliste qui va nous redonner une petite couleur de fond sur ce territoire singulier qu'est l'Islande et sur la façon dont on verra dans quelques minutes comment ce peuple, cette culture, ce génie-là répond à une crise que nous avons tous connue, qui est la crise économique. Mais est-ce qu'aquarelliste est un mot qui te convient pour décrire
parfaitement, parfaitement. Ça s'est passé d'une façon tout à fait surprenante. Dans la semaine, un ami vient manger à la maison. Et je lui dis donc, j'ai un truc à faire sur l'Islande, je ne m'en sortirai jamais. Et il me dit, moi j'ai passé 2 mois en Islande, j'ai fait plein d'aquarelles. Ben voilà, j'ai tendu le micro et on a fait une aquarelle radiophonique.
Et le géologue nous dira s'il est d'accord avec l'aquarelliste dans un instant. Mais écoutons l'aquarelliste.
L'Islande, c'est de la terre et de l'eau. Exactement comme de l'aquarelle. L'eau est tout autour, elle est à l'intérieur, et toute la terre représente toute la palette. Vous pouvez passer de territoires noirâtres, qui sont les résidus des cendres du volcan, au blanc, le blanc étant le glacier, et vous avez la stupeur de constater que vous avez le bleu de l'eau, le bleu du blanc, puisque le glacier lui-même a des reflets bleus liés à l'épaisseur de la glace, surmonté de cendres qui peuvent être noires, rouges, marrons, toute l'aquarelle, le tout dilué dans l'eau. La terre elle-même est aquatique. Vous sentez sous la terre la chaleur de l'eau, puisqu'il y a un volcan qui chauffe l'eau, l'eau est bouillonnante. Vous pouvez avoir des sols de soufre où il n'y a que du caillou, qui sont donc jaunes, jaune-orangés, parfois jaune-citron, et desquels sortent des fumerolles. Le contraste est surprenant puisqu'il peut faire 4 à 5 degrés dehors en plein été, alors que vous êtes sur un sol qui est quasiment brûlant. Et parfois, d'un seul coup, vous voyez des fleurs. Mais des vraies fleurs, des fleurs dont les couleurs sont comme des petits coquelicots, des fleurs violettes.
La ville islandaise.
Il y a une grande ville, c'est Reykjavik. Tout le reste est parsemé de soit de petits villages, soit d'habitats individuels. Ce qui caractérise l'habitat individuel, c'est que les maisons sont presque toutes construites en bois recouvert de tôle ondulée, laquelle a la particularité, bien sûr, de rouiller assez vite. Donc, ils se mélangent assez bien. Cela dit, on succombe assez vite au charme d'un endroit qui ne ressemble à nul autre.
Peignez-moi quelques Islandais.
L'Islandais type est une masse. Il va passer 20 ans, les poids-plumes sont autour de 120 kg pour la moyenne. Ils sont très très grands, à la peau extrêmement blanche, rougissant d'autant plus vite qu'ils sont trempés dans des bains d'eau chaude naturelle. C'est un peu comme le glacier et le soufre. L'Islandais type passe du blanc au rouge.
Donc, il faut être, Arnaud Guérin, il faut être très aimable avec un Islandais, si j'ai bien compris, parce que...
Non.
c'est très doux. C'est Régis Boyer, le professeur de...
Non, mais j'y ai vécu 2 ans, je connais la question. Je me suis battu avec aucun Islandais.
La relation avec les Islandais, c'est vrai que la poignée de main est en général assez franche, mais ce sont des gens qui sont des gens... je prendrai un exemple. Vous êtes sur le bord de la route, vous faites des images comme je le fais dans mon métier de photographe. Personne ne va s'arrêter. Et puis, simplement, vous levez le doigt et vous dites que vous avez besoin. Et quelqu'un va s'arrêter et va être, s'il y a besoin, va faire 30 km de détour pour vous dépanner. Et ça explique vraiment la nature des lieux. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur quelque chose qui est, on n'a pas le droit de laisser quelqu'un dehors tout seul, tout simplement parce que le climat est d'une rudesse importante. Et puis, cette nature, elle est vraiment présente partout.
Néanmoins, quand même, quand il est de mauvaise humeur, l'Islandais Cyril Coulet, alors vous êtes, donc je le rappelle aussi, chercheur invité de l'Institut suédois de relations internationales et spécialiste des pays nordiques, quand il est de mauvaise humeur, quand même, ça pose des problèmes. 2008, nous avons laissé Madame Selom nous dire que la crise a éclaté, qu'on va voir à quel point elle est mal vécue. énorme manif. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont devant le Parlement avec des casseroles, c'est ça?
Avec des, en fait, avec des barils de pétrole vide. Ça fait plus de bruit.
Beaucoup plus que des casseroles. Donc,
mais c'est quand même assez étonnant parce qu'on parle d'un pays dans lequel les manifestations ne sont pas véritablement à la base, je dirais, une tradition locale.
Il paraît que la dernière grande manifestation comparable, c'était en 1949.
La dernière fois, en tout cas, que les forces de sécurité avaient utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants, c'était en 1949, au moment de l'entrée de l'Islande dans l'OTAN.
Oui. Arnaud Guérin, vous vouliez dire, pardon, vous vouliez juste dire un mot, non?
Oui, il y a juste eu un événement qui a remis ça au goût du jour, j'allais dire, dans la société islandaise, c'est la construction de ce grand barrage. On discutera peut-être des enjeux de l'énergie.
Bien sûr,
il était construit, dans les fjords de l'Ouest, enfin, au pied du Vatnajökull, qui est ce grand glacier qui fait la taille de la Corse, hein. Donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Un barrage.
Merci de le dire.
Et donc, c'est, les Islandais disent que c'est une des premières fois où ça a été révélateur d'une fracture presque tellurique entre les gens qui étaient pour et les gens qui étaient contre. Et là, on a vu des manifestations et les gens sont descendus dans la rue comme ils ont pu le faire ensuite pour la crise économique.
Donc, il n'y avait pas que la crise économique, il y avait aussi des questions d'ordre environnemental. C'est évidemment, s'agissant de l'Islande, très important. Et on parlera aussi des enjeux géothermiques et de la recherche de pétrole et de questions qui inquiètent pas mal les Islandais. Donc, ils sont dans la rue avec leurs barils, ils tapent. Et qu'est-ce qui se passe?
Il se passe qu'on a un fonctionnement, je dirais, de la vie politique qui est perturbé parce que on commence à avoir des manifestations, des formes de mobilisation politique qui n'étaient pas jusqu'ici usuelles. Et on a surtout une remise en question des modalités traditionnelles en fait de la compétition politique. Où on avait jusqu'ici en Islande, globalement, quatre forces politiques, qui étaient le Parti de l'indépendance, qui était le parti pivot de la vie politique.
Depuis 1944, qui n'avait pas bougé, en gros, depuis l'après-guerre.
Un parti agrarien, une alliance social-démocrate et une gauche qui, aujourd'hui, est la gauche verte. Cet équilibre-là a été rompu à partir du moment où l'alliance social-démocrate, qui faisait une coalition gouvernementale avec le Parti de l'indépendance, décide de se retirer. Et décide de former une coalition politique inédite, qui est une coalition uniquement de gauche. Ça se produit en 2009, et ça donne lieu aux élections législatives anticipées, qui, outre cette recomposition du champ politique islandais, ouvre la voie à de nouveaux partis politiques, notamment le Mouvement des citoyens, qui est une émanation justement de ces manifestations qui avaient déjà lieu en 2008.
Mais ce qui est très intéressant, outre la remise en cause du système politique, et ça n'est pas une petite remise en cause, que cette coalition, on y reviendra aussi dans un instant, c'est la mise en cause des élites, c'est la mise en cause des entreprises, c'est la mise en cause de ce qui constitue un petit peu la structure même de la société islandaise.
C'est vrai que le fondement de ces manifestations, c'est le rejet des élites politiques traditionnelles sur l'idée de la collusion d'intérêts, sur l'idée de l'opacité des décisions qui ont été prises, notamment au regard de la privatisation des banques, sur l'idée de l'imputation de la responsabilité par rapport à la situation dans laquelle se trouve le pays. Et c'est cette défiance-là, aujourd'hui, elle n'est pas encore refermée. Je pense que on ne peut pas comprendre ce qui se passe en Islande si l'on ne comprend pas que la fracture, aujourd'hui, elle, certes, les partis traditionnels essayent de canaliser ces manifestations, essayent de trouver des espaces d'expression pour recoller finalement le système politique, le remettre en morceaux, mais on a toujours des formes de mobilisation spontanée. Des pétitions en ligne, on l'a vu avec iSave notamment, c'est ce qui a ouvert aussi une crise politique grave.
Non mais surtout, ils vont beaucoup plus loin que tout ce que nous avons pu faire nous au sein de l'Union européenne, parce que cette alliance social-démocrate qui va aboutir à la nouvelle coalition avec les Rouges et les Verts, ils vont demander la démission des trois gouverneurs de la Banque centrale islandaise.
Oui.
Démission des gouverneurs de la Banque centrale, c'est quand même pas rien. Enfin, et ils s'en vont en effet, et c'est un changement énorme.
Oui, mais ils le peuvent parce qu'ils ne sont pas dans l'euro et que leur Banque centrale n'est pas indépendante.
Tout à fait.
Oui, Madame Sialom.
Non, je voulais juste dire les soupçons d'accointance entre les politiques et notamment au moment de la privatisation, le fait que les choses ne soient pas faites dans la transparence, etc., sont avérés par la commission d'investigation qui a montré effectivement les fraudes qui avaient eu lieu, qui a montré comment les nouveaux actionnaires avaient accès à des prêts qui était complètement hors de proportion des garanties qu'il pouvait apporter, comme quoi le capital amené à ces banques émanait de près de ses propres banques. Enfin, on était dans une situation qui ressemble un peu à ce qu'on appelait les banques de poche en Russie au moment où on a libéralisé la Russie.
Franchement, quand on a vu ce qui s'est passé aux États-Unis avec Lehman Brothers et les réactions qui s'en sont suivies, quand on a vu ce qui s'est passé partout ailleurs en Europe et les réactions qui ne s'en sont pas suivies,
tout à fait.
Le cas islandais mérite une certaine attention. Donc, ils mettent à la porte, ils font démissionner les trois gouverneurs, mais également tous les membres de l'autorité de supervision financière.
Ce qui est, on ne peut plus normal. Ça aurait dû se passer ailleurs, de toute évidence.
Ce que les autres n'ont pas fait, quoi.
Tout à fait.
Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a une problématique d'échelle. C'est que vous êtes dans un système qui a 320 000 personnes.
Exactement.
C'est parfaitement d'accord. Il ne faut jamais perdre ce point de vue.
C'est-à-dire que, par exemple, quand vous êtes un matin avec des gens que je guide en voyage et que vous avez le ministre du Tourisme qui il est au bout de la table, il prend le petit déjeuner avec vous, il vous demande ce que vous pensez de son pays. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un cortège officiel. C'est-à-dire qu'à Reykjavik, l'équivalent de notre Élysée, les gens viennent prendre le café en face et il y a un lien qui est un lien direct. Donc on n'a pas du tout d'amortisseur. Donc c'est exactement comme pour le tellurique. La croûte est extrêmement fine, on sent exactement ce qui se passe. Mais là, on est exactement sur le même modèle.
Mais c'est pas mal la croûte fine, finalement.
Tout à fait d'accord. Moi, je voudrais bien que notre collègue nous explique pourquoi ils ne veulent pas entrer dans l'euro.
Alors, Madame Ciala.
Ils veulent pas tous rentrer dans l'euro.
C'est assez partagé.
Il y a un vrai clivage de ce point de vue-là. Déjà, le fait qu'ils ne soient pas rentrés dans l'euro, ça a permis une sortie de crise très, très différente de celle qui se dessine en Europe, enfin, tant que l'euro existera, tant qu'on ne va pas vers l'éclatement de l'euro, ce qui n'est pas assuré.
Quant aux Islandais, pardon de vous interrompre, oui. Ils ne sont pas non plus sortis d'affaires. Hein. La situation économique en ce moment est
bien
assez...
Bien sûr, ça tout à fait. On a cru qu'il y a eu un rebond. Hein. Tout à fait. Il y a eu un rebond à partir du troisième trimestre 2010, un retour à la croissance, baisse de l'inflation, etc.
Il y a des craintes de récession, même,
en Islande aujourd'hui. Tout à fait. Mais ce qu'ils ont fait quand même, c'est qu'ils ont instauré un contrôle d'échange. Ils ont eu une dépréciation en termes réels de la couronne de 40%, ce qui veut dire que ça leur a permis de redevenir compétitifs et donc de relancer leurs exportations et ça leur a permis également de juguler en partie l'inflation qui est atteint quand même près de 18% en 2009.
Oui, monsieur.
Il faut pas oublier aussi c'est que l'économie islandaise repose sur l'exploitation des ressources naturelles, en l'occurrence la pêche. Et donc là, les enjeux de la pêche et des quotas, c'est en train d'apparaître, je lisais hier soir sur internet les dernières news en provenance d'Islande, là on parle des quotas sur le maquereau, etc., ce qui nous semble complètement éloigné chez nous. En Islande, le pays vit au rythme de ça, c'est-à-dire que ça représente encore plus de 50% de l'activité économique du pays, donc...
Mais on va revenir là aussi sur les développements économiques possibles, et notamment sur la géothermie, sur les énergies nouvelles, etc. Et la pêche n'est pas, en effet, vous avez raison, une petite question. Mais Cyril Coulet, revenons quand même à ce qui se passe au niveau de la réaction politique à ce choc économique, financier, et qui va créer lui aussi en Islande, comme partout ailleurs, une vraie crise sociale. Il y a eu un référendum où on a demandé aux Islandais s'ils étaient d'accord ou pas de rembourser la dette.
Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça.
Alors, allez-y.
Le Parlement avait voté un accord, avait approuvé un accord, s'était prononcé dessus. Et lorsque la loi a été soumise au président de la République pour promulgation, le président a décidé de soumettre cette loi au peuple. Donc, le président de la République a demandé au peuple éventuellement de pouvoir déjuger ce que ses représentants avaient décidé d'accepter. C'est ce qui s'est passé en mars 2010, c'est-à-dire que les Islandais ont rejeté le deuxième accord sur Icesave, ce qui a ouvert aussi une crise politique, puisqu'on introduit une distance supplémentaire entre les représentants et le peuple.
Mais alors, Laurent Selhom, quand on a pu lire dans les journaux, notamment en France, que les Islandais avaient refusé de payer pour leurs banques. Est-ce que c'est bien ça qu'il faut comprendre ?
C'est pas exactement ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement islandais a pris comme mesure quasiment immédiatement dès le mois d'octobre 2008, octobre-novembre 2008, c'est-à-dire en fait, l'effondrement du système bancaire islandais suit immédiatement la faillite de Lehman Brothers. Ça commence le 29 septembre 2008 et dès le mois d'octobre, il promulgue des lois d'urgence pour organiser la liquidation en fait des anciennes banques. Donc ils prennent immédiatement la décision, chose que ne font pas les autres, que leurs banques sont trop importantes pour être renflouées et donc ils décident de séparer complètement les activités domestiques des activités internationales. C'est-à-dire ils créent des nouvelles banques, ils transfèrent tous les dépôts domestiques dans ces nouvelles banques, ils rachètent aux anciennes banques les prêts, les crédits aux particuliers et aux entreprises. Évidemment, en contrepartie de cet achat, les anciennes banques ont une créance. Et les anciennes banques sont mises dans un processus de liquidation. Ce processus de liquidation, on donne la possibilité aux créanciers d'avoir des recours, etc. Bon, finalement, tout ça aboutit au fait que, je crois que c'est à la fin 2010, là, le tribunal de Reykjavik a prononcé la liquidation. Et quand on fait la différence entre le total des passifs, c'est-à-dire des dettes de ces banques, et le total de leurs actifs, on arrive à une valeur nette négative, c'est-à-dire une perte de 27 milliards d'euros, sachant que le PIB islandais est d'environ 8 milliards d'euros. Et ça, c'est les investisseurs institutionnels et les banques étrangères qui vont les payer. Donc ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de garantie de l'État islandais là-dessus. Le problème que vous soulevez, c'est le fait que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a certaines de ces banques ont développé des activités de banque en ligne sous forme de succursales, notamment en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas. Or, on a une assurance dépôt en Europe qui fait que c'est le pays d'origine qui est responsable de l'indemnisation des déposants quand c'est sous forme de succursale. Si ça avait été une filiale, pas de problème, c'était le pays d'accueil, ça aurait été la Grande-Bretagne. Donc ce qui s'est passé, c'est que au départ, les Islandais, le gouvernement islandais a tergiversé, ne voulait pas forcément rembourser ses déposants. Il faut savoir que lors du premier accord ICEF, la garantie que devait donner le gouvernement islandais représentait 40% du PIB islandais.
C'est astronomique.
Voilà. Alors il y a eu un premier accord qui a été refusé par le référendum de mars 2010. Et c'était normal de refuser ce premier accord. Et d'ailleurs, le référendum avait été organisé suite à une pétition qui avait réuni un tiers du peuple islandais. C'est-à-dire un truc énorme quand même s'ils ne sont pas beaucoup. Et ça a été rejeté à 93%. Et c'était normal, les taux d'intérêt étaient excessivement élevés, 5,5%. Les Britanniques avaient refusé que la garantie de l'État puisse être modulée de manière à ce que la croissance islandaise ne soit pas pénalisée par ces remboursements. Et la période de remboursement était très courte. Et donc, il y a eu un nouvel accord suite à ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Union européenne et le FMI ont pesé de tout leur poids pour que l'Islande...
Ce qui est très, très intéressant, c'est que tout de même, via ce référendum, les citoyens islandais ont pris part directement à une négociation qui a abouti à la baisse du taux de remboursement. Et donc, ils sont directement partie prenante à l'économie de leur pays. Et ça, c'est quelque chose de très, très intéressant. Jean-Pierrot, autre point qui explique aussi la capacité qu'ont ces Islandais à réagir et à prendre parti, c'est, je reviens au caractère, hein, au fond, et aussi à ce lien avec le territoire, c'est vivre sur un volcan, ce qu'on a évoqué tout à l'heure. C'est un petit peu ça que tu as éclairé aussi là, avec ton explication.
Oui, j'ai simplifié, puisque l'Islande, c'est un volcan, donc je demandais à tout le monde, pas de danser sur un volcan, mais de les qualités indispensables pour vivre heureux sur un volcan.
Et répondre aussi aux questions du type de celles qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait quand on est ruiné?
Est-ce qu'on peut vivre heureux tout en n'étant pas en sécurité?
Répondez à votre question.
Si on accepte justement un certain risque.
Il faut une bonne dose de fatalisme. Il y a un effet d'habitude. Et partout où il y a de l'homme, il y a de la routinisation.
Le danger peut être routinier?
Je pense que oui. Je me suis affirmé dans la vie sociale avec la guerre du Liban. Voyez comment les gens s'accrochaient à leur terre malgré le danger qui ne cessait d'augmenter.
Comment vit-on le présent sur un volcan?
Il faut rien attendre de l'avenir.
Et justement, comment se projette-t-on dans l'avenir?
C'est un avenir fumant.
C'est presque comme ouvrir une bouteille de champagne. C'est comme si c'était la dernière.
On boit du champagne sans arrêt?
Peut-être, oui, en attendant que ça explose.
On doit vivre doublement au présent parce qu'on est sur un volcan.
Comment conjugue-t-on le double présent?
Je ne sais pas.
On ne prend pas forcément conscience des fois aussi du risque qu'il y a. On fait notre quotidien et jusqu'au jour où... Voilà.
Le fait de vivre dans un danger permanent simplifie-t-il la vie ou la complique-t-elle?
Je pense que ça simplifie.
Oui, moi aussi. Oui. On prend vraiment ce qui est essentiel, quoi. On ne s'encombre pas de questions.
Doit-on être plus philosophe ou plus croyant?
Alors, est-ce qu'on a peur des feux de l'enfer? On va dire philosophe, allez. On va positiver.
Parce que croyant, c'est pas positiver?
Si, croyant, mais moi, c'est côté enfer qui me fait peur. C'est pour ça.
Philosophe, je pense, oui.
Oui, moi, j'irais plutôt croyant.
Et il faut croire en quoi quand on vit sur un volcan?
Qu'on soit sur un volcan ou ici, à Paris, c'est compliqué.
Quelles sont les qualités indispensables pour vivre heureux sur un volcan?
Savoir courir vite.
Avoir de la corne aux pieds.
Avoir un cœur de braise.
Il faut une bonne capacité d'oubli.
Comment voit-on la mort quand on vit sur un volcan?
Très probablement comme un magnifique feu d'artifice, mais très peu artificiel.
Intervenir là.
Monsieur, c'est Monsieur Boyer, Monsieur le professeur émérite de langue, littérature et civilisation scandinave.
Pour vous servir. Je voudrais intervenir sur le fait qu'ils sont 340 000.
Oui.
Bon. Il n'y a pas lieu de parler de référendum avec les connotations que vous leur donnez, vous donnez à ce mot-là. Moi, je suis né à Reims, 340 000, comme par hasard. Mmh. Si le maire de Reims veut modifier la circulation à l'intérieur, il fait un référendum, vous voyez. Vous comprenez ce que je veux dire?
Bien entendu.
Ça n'a pas les connotations politiques que vous mettez. Et l'autre chose que je veux dire, c'est que j'ai vécu 2 ans en Islande. Je ne me souviens pas d'avoir jamais rencontré un Islandais qui tremblait parce qu'il va y avoir une éruption ou un tremblement. Il n'y a pas cette espèce de réflexe que vos interlocuteurs viennent d'avoir. L'Islande, c'est ailleurs, c'est autrement, c'est extraordinaire, point. Il n'y a pas tellement lieu de s'interroger sur les connotations.
Bien sûr, mais alors attendez quand même. Il est intéressant cet exemple de Reims que vous prenez, parce que voilà qu'à Reims, le maire, il ne va pas faire juste un référendum sur la circulation.
C'est pas un référendum,
attendez.
Il va consulter.
Non, non, j'entends bien.
Il y a 340 000 Islandais.
Mais laissez-moi juste 100, aller au bout
a,
de la question que je voulais vous poser.
170 000 en état de
peut-être, bouquet. Mais quand ça aboutit à l'idée d'une réforme de la Constitution, et que pour réfléchir à une réforme de la Constitution, on ouvre le champ à 25 citoyens qu'on va choisir un peu au hasard, qui vont se présenter, est-ce qu'on n'est pas dans un cas un peu plus particulier?
Non, je vais vous répondre là. Et je vais prendre un exemple suédois. Quand il y a un conflit à l'intérieur d'une usine chez nous, immédiatement les syndicats se mettent en grève, ils s'envoient à la face des noms de fleurs et d'oiseaux. Là, quand il y a un conflit dans les pays scandinaves, la première mesure que l'on prend, pas seulement en Islande, hein, dans tous les pays scandinaves, ils nomment un utredningskomité, ça s'appelle en suédois, c'est-à-dire un comité qui va être chargé de démêler la situation. Donc ils vont discuter, le parti pour, le parti contre, et ils essayent d'aboutir à un résultat. C'est la situation là-bas, hein.
Oui, Monsieur Coulet, vous vouliez réagir aussi sur l'aspect politique et notamment l'Assemblée constituante.
Déjà, sur la question de l'Assemblée constituante, c'est une volonté des partis politiques, c'est pas une volonté du peuple. C'était d'abord une volonté de l'Alliance sociale-démocrate.
Oui, mais de l'ouvrir très largement aux citoyens.
Oui, c'est vrai que les candidats n'étaient pas investis par un parti.
Absolument. Ouais.
C'était des personnalités, voire des notabilités pour la plupart. Qui ont été investis par un vote populaire, mais avec un taux de participation très faible, qui était de 35%, ce qui fait que le candidat qui a été le mieux élu se retrouve avec je crois avoir été investi par 3% des électeurs. Et, 9% des électeurs et 3% des inscrits.
Du coup, souveraineté populaire vous paraît être un peu abusif quand on l'évoque?
Mais je pense qu'il y a eu quand même un relatif désintérêt de la population à l'égard de ce système d'élection. Une certaine incompréhension éventuellement par rapport aux enjeux de cette révision constitutionnelle qui a été plus impulsée par un parti politique pour promouvoir un projet qui est l'adhésion à l'Union européenne, ce qui est un projet de longue date soutenu par l'Alliance social-démocrate, plutôt qu'une manifestation d'une démocratie populaire.
Oui, Arnaud Guérin voulait dire un mot aussi.
Oui, je voulais dire aussi sur la façon de vivre en Islande. Ici, chez nous, on est dirigé par notre statut social. Et on se place les uns par rapport aux autres avec ce statut social. En Islande, le statut social n'a pas de sens en tant que tel. C'est-à-dire que ce sont des individus, on est avant tout islandais. Et ça veut dire que vous pouvez parler au président de la République qui est à côté de vous et lui dire ce que vous pensez, ça pose aucun souci. Vous pouvez faire la même chose avec le pompiste et ça vous pose aucun problème. Et vous faites partie d'une entité de gens responsables et libres.
Mais c'est un énorme changement parce que, juste une chose tout de même, nous en France, c'est le président de la République qui quelquefois s'adresse à un Français, mais si le Français répond, il prend un très grand risque de finir en tôle. C'est une réalité, c'est un changement. Alors, d'accord, on n'est pas à 340 000, Mais tout de même, c'est une approche et une façon d'être qui est très différente.
On revient aux origines dont on parlait tout à l'heure aussi. Hein. Le fait d'être arrivé sur un territoire qui était un territoire vierge, où on a pu s'installer et a pu s'organiser. Et par exemple, la notion de ville ou de village qui est connue, bien connue depuis très longtemps chez nous, n'était pas du tout connue. C'était un réseau de fermes, hein. C'est-à-dire qu'on s'entraidait entre voisins, on avait des conflits entre voisins, et voilà, c'était totalement différent.
Et là, il faut insister, excusez-moi, mais c'est important.
Bien sûr, monsieur.
Aujourd'hui, Reykjavik fait 200 000 habitants sur les 340 000, n'est-ce pas? Mais il y a 50 ans, Reykjavik, c'était une toute petite ville d'à peine 50 000 habitants. Ils ont subi un phénomène d'urbanisation galopante qui est en train de déséquilibrer leurs assises immémoriales. Et ça, c'est intéressant.
Mais alors, tenez, restons à Reykjavik un instant. Parce qu'il faut aborder aussi un point qui est celui de la culture, qui est aussi une bonne grille de lecture de la spécificité islandaise. Reykjavik, un orchestre symphonique, un opéra, de grands musées, un théâtre national, un théâtre municipal, des galeries d'art nombreuses, de très grande qualité, parmi les meilleurs designers mondiaux, une littérature. Est-ce que c'est vrai que c'est l'un des pays au monde où il y a le plus grand nombre de lecteurs?
C'est parfaitement
Boyer.
Vrai, monsieur. Pour commencer, il n'y a pas d'analphabétisme en Islande. Il n'y en a pas. En second lieu, ils battent tous les records de publication de livres, publication de magazines, fréquentation des bibliothèques, écriture aussi. Bon, il y a un dicton qui dit qu'il y a un Islandais sur deux qui est écrivain. C'est presque vrai. Et puis, vous avez vous-même dit tout à l'heure que les Islandais pensent que la moitié de la population de l'Islande passe son temps à lire ce que l'autre moitié a écrit.
C'est pas vrai ou pas, ça?
Oui, on peut dire que c'est à peu près vrai. Oui,
mais
oui.
Qu'est-ce qui explique, au fond? Est-ce que c'est la si longue nuit islandaise qui a conduit les hommes et les femmes à beaucoup lire, peut-être
vous
pas seulement d'ailleurs.
Vous me permettez de répondre un peu cyniquement?
Mais je vous en prie.
Premièrement, c'est leur petit nombre. Ils sont très seuls. Ils ont longtemps été très seuls. Ce phénomène n'a cessé que depuis la diffusion des moyens de communication de masse. Hein. Et deuxièmement, il y a quand même le climat. Là. Alors, pour remonter dans ce que dit mon voisin, là, la longue nuit, ce n'est pas une légende. À partir de début novembre jusque maintenant, fin avril, il fait pas vraiment jour, les veillées sont très longues, il faut bien qu'ils s'occupent, si j'ose dire, n'est-ce pas? Alors, ils s'occupent de la sorte. Il faut tenir compte de ça parce que ça échappe aux critères d'analyse d'un Français normal.
Mais est-ce que c'est la longue nuit qui explique aussi, alors, l'apparition, visible ou pas, qu'importe, on s'en moque, elle fait rêver, des trolls, des nains, des elfes, des... Est-ce que c'est... D'où ça vient,
cher
ça
ami,
oui, les oui pays, monsieur Boyer, je vous en prie.
Les pays scandinaves, tous ensemble, ont un système de créatures surnaturelles extraordinaires qui probablement plongent des racines dans leurs très, très, très lointaines assises. Il n'y a pas plus de trolls en Islande qu'en Suède ou qu'au Danemark.
Mais il n'y en a pas moins.
C'est pareil. Alors là, c'est pour abonder dans ce qu'on a dit. Cet univers est hanté. C'est pas tout le monde qui vit sur un volcan. C'est pas tout le monde qui vit parmi la glace. Par conséquent, il a bien fallu immémorialement qu'on trouve des justifications à ces phénomènes aberrants qui se produisent tous les jours. Alors on a peuplé le décor de créatures surnaturelles. Mais comme ça.
Mais moi, j'ai entendu monsieur le géologue qui est là, Arnaud Guérin, qui avait fait ce livre de photos absolument splendide, dire, je vous ai entendu le dire tout à l'heure, même quand vous êtes seul pour faire vos photos dans les endroits les plus reculés où il n'y a personne, vous vous arrêtez avec tout à coup comment un sentiment bizarre?
Non, alors je répète.
Il l'a dit, je voulais qu'il le dise. Je voulais qu'il le répète. Non,
en fait, c'est pas moi qui le dis, c'est une amie islandaise qui m'accueillait lors d'un de mes premiers voyages et qui me dit, toi qui aimes être dehors et qui aimes être dans la nature, tu verras, je partais sur les flancs d'un volcan qui est certainement le plus éruptif d'Islande, qui s'appelle l'Hekla. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans notre culture européenne, les moines de l'abbaye de Clairvaux au Moyen-Âge considéraient ces confins volcaniques comme une des portes d'entrée des enfers. Et je partais là-bas faire des images et elle me dit, tu verras dans les champs de lave, tu peux y croire ou tu peux pas y croire, nous on y croit, mais en tout cas, tu ne te sentiras jamais seul. Et c'est vrai qu'à la réflexion, quand on se balade et qu'on se pose et qu'on essaie d'avoir une acuité visuelle comme peuvent l'avoir les Scandinaves quand ils sont dans cet univers-là, eh bien, il y a des choses qui apparaissent au regard et il y a une sensation qui est une sensation d'être réellement dans la nature. Mmh. Et la nature, ils ont développé une acuité qui est extraordinaire parce qu'il y a un mois, comme tous les ans, on a fêté l'arrivée par exemple du pluvier doré, qui est cet oiseau migrateur qui est le premier arrivé et qui est le symbole de la sortie de l'hiver, de la sortie de ce tunnel.
Donc, mais l'Islande, c'est une terre d'élection pour les migrateurs.
Macareux.
Oui, je donne l'exemple. Je trouve que c'est un porte-avions ornithologique posé en plein milieu de l'Atlantique qui draine les oiseaux qui viennent d'Europe et qui draine les oiseaux qui viennent de l'univers nord-américain, qui draine aussi les sternes arctiques qui sont en train d'arriver, qui font 28 000 km de migration. Donc là, tout le monde se donne rendez-vous dans cette terre d'élection où il va y avoir pléthore de nourriture pendant l'été.
Vous savez ce qui est frappant, Monsieur Boyer, à vous écouter les uns et les autres depuis tout à l'heure? Vous avez une façon d'en parler, l'Islande. Apparemment, ce pays-là, on s'y implique beaucoup. Hein.
Mais je voudrais compléter ce qu'a dit mon voisin.
Il vous reste exactement 40 secondes.
Ce qui explique cette fréquence et cette profondeur du surnaturel, c'est la lumière. Ce sont des pays, extrême nord de la Suède, extrême nord de la Norvège, extrême nord de la Finlande et Islande intégralement, où vous ne voyez pas ce que vous voyez. La lumière transfigure, abolit les distances, dédouble, démultiplie. C'est une chose extraordinaire et qu'il faut vivre. Alors à ce moment-là, le décor est hanté.
En tout cas, écoutez, une petite dose d'Islande, même si en effet, à vous écouter, on a compris qu'on peut peut-être pas trop abuser de la souveraineté populaire. Une petite dose d'Islande, quand même, ça nous ferait pas de mal par les temps qui courent. Merci madame, merci messieurs. Merci. Dans un instant, le journal et la deuxième partie de 3D à 13h30.